Lynn prépare le repas. Lise vient la trouver une feuille de papier à la main pour lui demander si elle veut bien l'interroger. Et la jeune fille de débiter mot pour mot sa leçon d'histoire. Elle cesse lorsque sa mère éclate de rire, ayant entendu Lise réciter « La papote se trouve à Rome ». « Pourquoi tu ris ?» demande l'adolescente. « Parce que c'est la papauté. »«
Oh, c'est bon, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Tout le monde peut se tromper. »«
Mais oui, bien sûr, mais c'est drôle quand même. Tu auras probablement dû prendre des notes rapidement. » Ça m'est arrivé aussi pendant mes études de traduction. Nous avions un prof d'histoire qui dictait son cours à une allure folle. Je me souviens que j'avais légèrement tiqué sur le moment, me disant « c'est bizarre ça comme nom pour un pape, mais bon, si le prof l'avait appelé comme ça. Tu sais ce que j'avais écrit ? Clément VII ? C-E-T-T-E. C'est en révisant mon cours pour l'examen que mon franc était tombé. C'était Clément 7, bien sûr, avec le chiffre 7.
Ouais, bon, ça va sinon, je connais bien mon cours, non ? Demande Lise, à moitié vexée d'avoir été corrigée.
Sa mère confirme et l'ado s'éclipse pour aller caresser la petite chatte de Georges qui lui a confié, comme il le fait chaque fois qu'il part quelques semaines en France, passer du temps avec son père ou sa tante. L'animal se tient près de Daphné, assise à la table de la salle à manger, pour faire ses devoirs. Moi, si c'était la fin du monde, dit Lise soudain, j'emmènerais Mimi. Lynn, toujours devant ses fourneaux dans la cuisine adjacente, entend sa cadette ajouter « Je ne sais pas si elle en a conscience. » Sa mère rétorque spontanément sur un ton affirmatif « Ah oui, elle en a conscience. » Puis, sur un ton plus dubitatif, elle ajoute « Enfin, je suppose, elle ne me l'a pas dit. » Daphné intervient, offusquée. « Mais dis, les animaux n'ont pas de conscience, c'est ce qui les différencie des êtres humains. » Sa sœur et sa mère poussent de hauts cris de protestation. Lynn prend la parole. « Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'en savons-nous ? Ce sont les êtres humains qui déclarent ça. » Mais nous ne sommes pas dans leur tête.
Mais ils ne parlent pas, dit l'aîné.
Si ils parlent, répliquent Lise et Lynn de concert.
Oui, je sais bien que beaucoup de scientifiques ont étudié le langage de nombreux animaux.
S'ils n'ont pas la parole, c'est peut-être parce qu'ils n'en ont pas besoin, elle la coupe sa mère. Je viens de lire qu'il existe un gène de la parole, FOXP2, un gène qui a muté à l'époque où l'homme a développé la capacité de parler. Des chercheurs américains ont comparé la version humaine de ce gène et la version simienne. « C'est quoi simienne ?» demande Lise. « Simienne, de l'adjectif simien, c'est ce qui se rapporte aux singes. » Des chimpanzés en l'occurrence. Et ils ont découvert qu'un certain type de mutation entraîne chez l'homme de légères différences physiques au niveau de la mâchoire, de la langue et du palais. Et s'il ne parle pas, c'est parce qu'il n'en a pas besoin, complète Lise, qui ne veut pas être en reste. Je suis d'accord avec toi, lui dit sa mère. Ce n'est pas parce que l'homme a développé la capacité de parler que cela devait nécessairement se produire. Toutes les autres espèces se passent de la parole sans problème. Nous avons probablement dû avoir certains besoins que les autres espèces n'avaient pas. Si ça tombe, nous sommes les moins évolués sur Terre.
L'aîné intervient. Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai que les animaux ont un langage, mais ils n'ont pas l'intelligence.
Ils n'ont pas l'intelligence, tu rigoles ? Il y a beaucoup d'animaux très intelligents, peut-être même plus intelligents que les hommes. Je pense que les dauphins, les baleines sont plus intelligents que nous. Tu te souviens de cette expérience dont je t'avais parlé avec la cacahuète ?
Hein ? Quelle expérience ? La coupe la cadette. Je ne suis jamais au courant de rien dans cette famille, bougonne l'adolescente.
Attends, je vais reprendre l'article, je sais où je l'ai rangé. Quelques secondes plus tard, Lynn, le classeur à la main, feuillette les coupures jusqu'à trouver l'article qui l'intéresse. Voilà. Le génie de l'orang-outan. une expérience conduite par des scientifiques démontre l'ingéniosité de primates. Imaginez un tube transparent de quelques centimètres de diamètre et une vingtaine de centimètres de haut, solidement fixé à la grille de la cage. À quelques centimètres du fond, flotte une arachide sur un peu d'eau. L'orang-outan n'a aucun objet pouvant servir d'outil à sa disposition. Pas de tige, ni de bâtonnet pour aller à la pêche aux cacahuètes. Qu'à cela ne tienne, il n'a fallu que quelques minutes aux cinq singes testés séparément pour récupérer les fruits. Comment ? Tout simplement en aspirant de l'eau de l'abreuvoir dans leur bouche et en la recrachant dans le tube pour élever le niveau d'eau et récupérer la cacahuète. Les scientifiques restent pantois devant une telle preuve d'intelligence. Non seulement ils ont sollicité leur ingéniosité pour utiliser l'eau comme outil, mais ils ont aussi répété la manœuvre de plus en plus vite aux différents essais. Les scientifiques ont ensuite effectué des tests de contrôle, notamment en collant l'arachide en haut du tube, auquel cas les hominidés se sont contentés de prendre la gâterie à la main sans cracher dans le tube. Elle conclut sa lecture par une opinion personnelle. Je suis loin d'être sûr que les humains réussiraient le même test. Je sais que je n'y aurais pas pensé pour ma part. Bon, en tout cas, ils n'ont pas de conscience, affirme Daphné. Lise de lui répondre. Qu'est-ce que t'en sais ? Tu vois ton orang-outan faire de la politique ? Réplique l'aîné. Lynn concède que l'idée est drôle. Elle embraye. Tu sais que chez les chimpanzés, il y en a toujours un qui joue le rôle de policier, de médiateur dans les disputes. Lorsque deux singes se battent, un troisième joue les gardiens de la paix et intervient pour séparer les belligérants. Belligérants, maman ! Y a que toi pour parler encore comme ça de nos jours, fait Lise, tordue de rire sur sa chaise. Daphné, elle, est loin de rire. Oh, ça m'énerve que vous êtes toutes les deux contre moi, je n'aime pas ça. On dit soyez d'abord, la reprend sa mère. Et puis nous ne sommes pas contre toi, on rit avec toi. Puis, voyant que la blague usuelle dans la famille ne fait pas rire son aînée, elle ajoute apaisante. Nous avons un avis différent de toi, c'est tout. En tout cas, vous ne me ferez pas changer d'opinion. Et c'est très bien. C'est bien d'avoir ton opinion, de développer des arguments, mais tout le monde ne doit pas nécessairement être de ton avis. Je sais bien que j'ai raison. Les animaux ont besoin de nous pour vivre. Mais pas du tout, lui dit Lynn. Lise intervient à son tour. C'est plutôt nous qui avons besoin d'eux pour vivre. Sa sœur réplique. « Mais non, regarde, les animaux ne savent pas accoucher sans l'intervention de l'homme. » La mère répond. « Ça, c'est pour une question d'argent. Le fermier n'a pas envie de perdre de l'argent si le veau meurt à la naissance ou si c'est la vache qui meurt en vêlant. Et c'est même pire, c'est à cause de l'homme. Par sélection, on a créé une race, le fameux bleu-blanc-belge, qui ne peut plus veiller par les voies naturelles. Les veaux ne passent plus, ils sont trop gros. » Daphné s'entête. « En tout cas, nous sommes plus intelligents. Nous savons qu'un jour la Terre va exploser de toute façon, qu'il n'y aura plus aucune vie sur Terre. On cherche déjà une autre planète. Les animaux, eux, ils restent sur cette Terre. Ils ne pensent même pas à chercher un autre habitat. Nous, oui. Enfin, il n'y a que les millionnaires et les milliardaires qui s'en sortiront. » Et ils emporteront quelques animaux pour... Pour les bouffer, oui, la coupe Lynn en riant. Puis, redevenant soudain sérieuse, et si les animaux ne cherchent pas à quitter la Terre, c'est peut-être parce qu'ils ont compris qu'elle est belle, notre planète Terre, et qu'ils s'en contenteraient bien si l'homme ne la détruisait pas. Bon, c'est pas tout ça, intervient Lise. Je vais étudier dans ma chambre. J'ai une interro en latin demain, je n'y comprends rien. « Oh, ça me fait penser !» s'exclame Lynn. En rangeant mes affaires, je suis tombée par hasard sur un mot que j'avais griffonné le jour où j'avais crié dans mes rêves. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années. Nous vivions encore dans la maison. Qu'est-ce que ce rêve m'avait remué ?
J'avais noté une phrase en latin, du moins le seul mot dont je me souvenais au réveil. Vous qui étudiez le latin toutes les deux, vous pourriez m'aider à la traduire. Quod iuti legis habet vigorem, lit-elle sur le bout de papier. Ah, moi je sais que legis, c'est la loi, dit fièrement Lise. Et habet habeo, avoir je tiens, débite d'une traite Daphné, dont les longues heures d'apprentissage par cœur portent leurs fruits. Pour le reste, je ne sais pas. Tu as déjà cherché sur Internet ? Demande-t-elle à sa mère. Non, c'est une excellente idée, je vais allumer l'ordi. Lynn tape les mots latins qu'elle avait griffonnés et découvre. Quod principi placuit legis habet vigorem. Ce que veut le prince à force de loi. En remplaçant le principi par iuti, on obtient quod iuti placuit legis habet vigorem. Ce que veut iut à force de loi, réfléchit-elle à voix haute, avant de poursuivre. Eh ben, il manquait pas d'air, l'anthropopithèque. Qui ça ? Demande la plus jeune. Non, rien, laisse tomber, je fabule. Converser régulièrement avec un primate n'est déjà pas une pratique des plus courantes. De là à le crier sur les toits, il y a de la marge. Après le repas, Lynn se met à rêvasser. Le nombre de personnes qui ont un jour été visionnaires, songe-t-elle. Il paraît qu'un auteur avait décrit une personne assise dans l'herbe en train de dessiner du doigt sur un ordinateur à peine plus épais qu'une feuille de papier, se souvient-elle. Et aujourd'hui, la tablette est devenue un objet de la vie quotidienne. George lui a parlé la veille des ventes de l'Apple Watch qui ne décolle pas. Elle n'en a effectivement pas encore vu. George lui a dit, pour cause, tu te vois parler à ton poignet dans le bus pendant que tu tiens ton téléphone sous les yeux. Lynn convoque son singe pour partager ses fabulations. Peut-être qu'un jour, les êtres humains auront vraiment une puce implantée dans l'oreille, comme on le voit dans certains films de science-fiction. Petit sourire du singe. Encore un de ces silences qui ont le don d'agacer Lynn. C'est à elle de trouver la réponse, croit-elle, lorsqu'elle s'exclame tout poil hérissé. La puce, elle est déjà implantée ? En quelque sorte, non ? Lynn se rend chez son compagnon pour l'aider à trier ses factures. En 3 minutes, elle est au pied de la grande maison, déverrouille la porte et appuie 2 fois de suite sur la sonnette pour signaler à George sa présence. Fermer la porte derrière elle, vider la boîte aux lettres, grimper les 2 premiers étages jusqu'au bureau, y déposer le courrier. Elle ôte sa veste tout en grimpant l'escalier interne qui mène au loft du 3e étage. Elle embrasse George qui se tient sur le palier. Elle a un instant d'hésitation, ne comprenant pas tout de suite comment elle peut entendre quelqu'un ouvrir le robinet de la cuisine alors que son compagnon se tient devant elle. Elle se souvient. Juste, on est jeudi. Elle se dirige vers la cuisine pour aller saluer l'homme de ménage. Ce dernier, comme à l'accoutumée, la salue d'un bonjour ponctué d'un large sourire. Son regard bleu semble à Lynn encore plus pétillant que d'habitude, et très vite elle en comprend l'origine. L'homme lui tend la paume sur laquelle il vient de déposer la boucle d'oreille. Lynn est déconcertée, mais elle se reprend vite. « Oh, monsieur Jurek, vous l'avez retrouvé ?»« Oui. »« Si vous saviez ce que je suis contente, merci, merci beaucoup, vraiment. » Je tenais tellement ces boucles d'oreilles, c'est ma maman qui me les avait offertes, vous comprenez ? Elle ne lui laisse pas en placer une. L'homme patiente, laissant la dame exprimer sa joie, puis quand elle est suffisamment calmée, il lui explique. Je le savais, je l'avais dit à Agatha. Ma femme pensait que c'était de la folie de vider ce sac d'aspirateur et de le retourner dans tous les sens, mais je tenais à le faire. Je vous remercie du fond du cœur. De rien, je vous en prie. Et l'homme se remet au nettoyage de la cuisine. Lynn est décontenancée. Jurek est certes un ange, toujours à courir dans tous les sens pour effectuer un maximum de tâches en 4 heures. Dévoué, jovial, efficace, un ange. Mais de là à avoir en lui la personne censée lui montrer où va la conscience après la mort, drôle de retour sur terre. Lynn n'a pas l'occasion de s'attarder sur cette réflexion désarçonnante, car George accapare bien vite toute son attention. Elle ne voit pas l'heure tourner et déjà il est temps de rentrer préparer à manger pour ses filles. Elle expédie la préparation du repas pour se ménager un temps de méditation avant la sortie des cours. Assise en lotus, alors qu'elle focalise son regard sur la flamme de la bougie qu'elle a allumée, elle voit Mento se matérialiser sous ses yeux. Elle a envie de lui confier d'emblée sa déception, les doutes qu'a fait rejaillir en elle la soudaine réapparition de sa boucle d'oreille perdue, réapparition qui n'a rien de surnaturel, tout en étant magique, car elle lui procure simultanément une grande joie. La honte aussi de s'être une nouvelle fois laissée emporter par des pensées ridicules. Elle aurait voulu déverser ce trop-plein d'émotions contradictoires, mais il ne lui en laisse pas le temps. Le primate la regarde dans les yeux et lui dit « Je vais te raconter 3 histoires. Ferme les yeux et écoute attentivement. Tu imagineras sans peine la scène pour l'avoir déjà vécue ou observée toi-même. » Un couple marche dans la rue. Entre eux trottine leur fillette d'environ 2 ans. De sa menotte droite, elle tient la main de sa maman. Quant à sa main gauche, elle la tient résolument serrée contre sa poitrine, dans un refus évident de prendre la main de son papa qui lui tend la sienne. Le père insiste, visiblement blessé dans son amour-propre. Il retente sa chance en accompagnant sa demande de paroles encourageantes, la voix se faisant cajolante. La petite fille est catégorique. Non, c'est non. Et elle poursuit son trottinement, la menotte serrée sur son cœur. Toi qui assistes à la scène, tu ne peux qu'adresser un sourire amusé d'encouragement au père dépité. Après quelques secondes d'interruption, l'anthropoïde poursuit. 2 hommes sont assis dans la salle d'attente des urgences, le père et le fils. Devant eux, parade une petite fille de 3 ans, apparemment inconsciente de l'endroit où ils se trouvent ou de la raison de leur présence en ces lieux. Les adultes agissent envers elle comme si de rien n'était. Elle tient dans la main un tube de bonbons multicolores. Son grand-père lui tend la main, lui demandant visiblement un bonbon. La petite refuse net, accompagnant sa réponse d'un geste éloquent. Elle planque le tube derrière son dos. Le grand-père insiste, cajoleur, pour recevoir une dragée. Non. Il se fait moralisateur, tente de lui transmettre le sens du partage. Le petit bout de femme lui tient tête. Elle sait ce qu'elle veut. Elle tiendra les confiseries hors de portée. Lorsque le grand-père relève les yeux et parcourt la salle du regard, il te rend le sourire de complicité amusée qui a éclos sur tes lèvres. Et voici ma dernière histoire. Une maman allait de sa petite âgée de 8 mois. Pendant les premières minutes, la loupiote tête goulûment. Lorsqu'elle est rassasiée, elle lâche le mamelon, fait courir ses doigts sur les lèvres de sa mère, tente de lui mettre les doigts dans sa bouche. La mère détourne la tête doucement, repousse de son bras libre la menotte de la petite. Celle-ci se remet à téter, puis recommence son manège, heurte de ses petits doigts la bouche, le nez, le visage de sa maman. Te voilà aussitôt projetée dans tes propres souvenirs et tu penses, amusée, que vraiment les enfants sont tous pareils. Lynn reste silencieuse, à l'écoute de la voix lénifiante, et se surprend à comprendre que toutes les pensées parasites se sont tues, laissant toute la place à l'imagination des scènes que décrit l'hominidé. Celui-ci continue son récit. À ce stade, je suis persuadée que tu te demandes pourquoi je te raconte ces histoires. J'ai omis les détails parce que je suis certain que tu as réussi à les imaginer, ces trois petites et les adultes qui les entourent, qui les protègent, qui les aiment et qui les aident à grandir, qui souhaitent les voir heureuses, qui veulent le meilleur avenir pour elles tout simplement. Veux-tu que je te donne les détails ?
Oui, pourquoi pas.
Le premier couple est d'origine asiatique. La famille aux urgences est d'origine arabe. Et la maman qui allait est une femelle orang-outan. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous vivants. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Tu ne vaux pas moins que les autres. Tu es toi et tout est bien. Rien n'est grave. De toute façon, l'issue sera fatale. Pour eux, pour elles, pour chacun d'entre nous. Ce qui est grave, c'est de ne pas vivre jusque-là. Eh bien, justement, tu me dis jusque-là. Tu veux dire la mort? J'aimerais savoir ce qu'il y a après la mort. Je serais tentée de croire qu'il n'y a rien, juste la mort. Mais qui suis-je pour croire que c'est moi qui ai raison, et non pas les millions de gens qui croient en l'au-delà? Que faire du témoignage de tous ces gens qui ont connu une expérience de mort imminente? Sans parler de tous ces gens en Inde qui se réjouissent lorsqu'un membre de leur famille décède parce que ça leur fait un ange de plus pour les protéger. Je ne sais plus où j'ai entendu cette histoire. Elle repense au rêve qu'elle avait fait la nuit où elle avait perdu sa boucle d'oreille et dit à l'anthropomorphe « Tu vois, j'avais imaginé que je comprendrais, que j'aurais des réponses à toutes mes questions existentielles, que je percerais le mystère de la résonance limbique. » De ce champ morphinique, comme dit Rupert Sheldrake. Regard interrogateur du primate. L'hypothèse qu'il existerait une sorte de matrice invisible qui relierait les êtres vivants entre eux, tous les êtres vivants, dans un espace qui leur permette de garder un contact perpétuel, qui ne s'effacerait ni avec le temps ni avec la distance. J'avais imaginé que je saurais une fois pour toutes ce qu'il en est de l'au-delà, du paradis ou justement du non-paradis. L'idée que le paradis serait plutôt sur terre, ici et maintenant. Je m'étais fait un cinéma, tu vois. Ah bon? Ce n'est pourtant pas ton genre. Lynn s'arrête une fraction de seconde, déroutée, bouche ouverte. Le singe la taquine. Si on ne peut même plus rigoler. Fais gaffe, la prochaine mouche qui passe est pour toi, prévient-il hilar. Lynn se reprend, plus agacée qu'amusée. Dans le film que je me faisais, je m'étais imaginé que je saurais que j'étais arrivée au paradis le jour où on, un ange, un proche décédé, une entité de lumière, que sais-je, me tendrait la boucle d'oreille posée sur la paume de sa main. Et si tu te préoccupais plutôt de la vie, si tu arrêtais de te tourmenter avec des questions dont personne n'a la réponse, pourquoi éprouves-tu tant de mal à accepter que parfois certaines questions n'ont pas de réponse? Parce que j'aimerais savoir, parce que j'ai peur, parce que je voudrais être rassurée. Pourquoi le soleil se lève à l'est? Pourquoi se couche-t-il tous les soirs? Pourquoi l'été succède au printemps? Connaître les réponses n'enlève rien à la magie.
Magie, magie, pourquoi les gens qu'on aime disparaissent? Tu parles d'une magie. Ceux qu'on n'aime pas disparaissent aussi, note. En tout cas, je n'ai pas envie d'abandonner mes recherches.
Qui te parle d'abandonner? Je te parle de lâcher prise, il y a une différence.
Qui est?
Savoir que certaines questions n'ont pas de réponse et l'accepter.
C'est ça. Et on remet une couche de fadaise, spirito religio bof bof.
Je ne te demande pas d'abandonner. Je te demande au contraire de nous aider.
Oh là, tu ne vas pas revenir avec ta mission mystique.
Qui te parle de mission? Tu es la seule à prononcer ce mot. Moi, je te demande de nous entendre.
De nous entendre, qu'il dit le rigolo. Je ne fais que ça de vous entendre. Je voudrais que tu sortes de ma tête, l'asticot.
Lynn se relève, frustrée de constater que, si les années passent, elle ne lui apporte pas pour autant la sagesse qu'elle espérait. Ni la sérénité. Le deuil de sa maman, qui les a quittés moins d'un an auparavant, la laissant insatisfaite face à ses questions existentielles. Non, se dit-elle, je suis probablement déprimée et trop dure avec moi-même. Un sursaut de l'ancienne moi. Le stage de pleine conscience avait marqué un tournant. Elle n'en avait pas vu les effets immédiatement, mais sa vie, son caractère avait changé sensiblement. C'est Nalan qui avait déclenché cette prise de conscience en lui écrivant. « Coucou papillon, puisqu'à présent je peux t'appeler ainsi. Plusieurs questions me traversent l'esprit depuis ta métamorphose. En connais-tu l'origine? As-tu l'impression qu'elle est liée à ta maladie? Accepterais-tu de m'en dire plus sur ta maladie, si bien sûr tu le souhaites? Je te pose la question parce que j'avais depuis plus d'un an des maux de tête à répétition. Longtemps, j'ai pensé que je captais le stress d'une personne tierce, mais même si c'est une possibilité, je crois que je génère aussi ces douleurs par mon propre stress. Je viens de découvrir que j'ai des pensées qui me taraudent sans même que je m'en aperçoive. Ou plutôt, je sais qu'elles existent, mais je ne me rendais pas compte à quel point elles sont omniprésentes. Il y a quelques semaines, j'avais réussi à me débarrasser de ces maux persistants en faisant une séance de FT avec un ami, mais depuis ils sont revenus. Je sais, je sens, que je suis capable de m'en débarrasser sans médecin, sans médicament. Je sais aussi que mon stress est essentiellement lié à mon travail ou à ma façon d'envisager le travail. Je fais donc des liens, mène des réflexions entre stress et travail. Peut-être pourras-tu me faire avancer dans mon questionnement ? Lynn prend le temps de la réflexion avant de lui répondre. C'est étrange, je n'ai pas pris conscience moi-même de ma métamorphose, parce qu'elle est venue très progressivement. Figure-toi que tout a commencé par la plus forte intuition que j'ai eue dans ma vie, et que je n'ai pas écoutée. Quand j'avais 18 ans, j'assurais l'intendance d'un camp guide. Nous étions peu nombreuses, car c'était le pré-camp. Les cheftaines avaient décidé d'aller boire un verre en ville et nous ont demandé d'embarquer à 7 dans une petite voiture. J'ai bien tenté de refuser, mais en vain. Je ne savais pas que nous allions avoir un accident de voiture, mais je savais que je ne devais pas monter dans cette voiture. Le problème, c'est que l'on apprend surtout aux enfants qu'ils ont des devoirs. On leur apprend trop peu qu'ils ont aussi des droits. Alors, quand on m'a dit d'arrêter mon cinéma, que tout le monde partait, ou bien personne, j'ai obtempéré. Et j'ai vite su pourquoi j'aurais mieux fait de ne pas me trouver dans ce véhicule. Je ne m'attarderai pas sur la nécrose. Deux opérations chirurgicales, lent processus de dégénérescence, le bout de l'os n'est plus irrigué par le sang et meurt, mais pas en silence, j'aime autant te dire que tu t'en rends compte. Lente et inexorable régression de la mâchoire inférieure, hantise de découvrir l'évolution dans le miroir, sur les photos et sur les radios, et douleur, des années durant. Oh, j'ai bien tenté de l'oublier, la douleur, en m'enfonçant dans le travail. Écouter mon corps n'a jamais été mon fort. Je suis plutôt une adepte de la dénégation. C'est dans ta tête, n'y pense pas, ça finira bien par passer. Or, les douleurs n'ont fait qu'empirer et s'étendre à d'autres parties du corps, nuque, dos, hanches, même une tendinite aux deux bras, à force de pianoter les traductions sur le clavier. Rien n'y faisait. J'augmentais tout simplement les doses d'antalgiques et intensifiais ma fuite dans le travail. Il a donc bien fallu que mon corps trouve un autre moyen de me faire décrocher. Perte d'équilibre. Oh là ! Comme effet de surprise, il n'y a pas à dire, c'est efficace. Tu es là, debout, tu te sens parfaitement normal. Pas de sensation de vertige, pas d'étoiles devant les yeux, des signes que je reconnaîtrais pour avoir déjà connu chute de tension et autres joyeusetés du genre. Et tout à coup, les yeux informent le cerveau ramolli qu'il a intérêt à redresser l'appareil vite fait parce que je pique du nez. Enfin, Je pique de l'oreille serait plus approprié, en l'occurrence, car les chutes sont toujours latérales. Effet bœuf garanti. D'autant plus que les premiers épisodes, je n'ai rien vu venir. Avant d'avoir compris, j'étais contre une armoire, le chambranle d'une porte ou un mur. Mais qu'est-ce que je fais là, moi ? Mais cette maladie, je la gérais depuis des années. J'ai donc continué comme si de rien n'était. Je suis tombée malade, une maladie auto-immune dont le stress et la fatigue ont aggravé les symptômes. Je suis persuadée que c'est cette nouvelle maladie qui m'a transformée, parce qu'une phase primordiale de la transformation est l'acceptation, et parce que la notion de responsabilité a été primordiale dans mon déclic. Je suis responsable de la façon dont je réagis à l'événement, quel qu'il soit. J'ai à quelques reprises tenté de me débarrasser de mon traitement par médicament, pensant comme toi que je pouvais me débarrasser de la maladie sans médecin, sans médicament, écoutant les théories selon lesquelles on peut tout guérir par l'esprit. Tu n'imagines pas à quel point certains discours peuvent être perçus comme culpabilisants. Un tel a courageusement vaincu un cancer, une telle s'est courageusement battue, et ceux qui veulent être courageux mais qui n'y arrivent pas. Je sais que les gens pensent bien faire, mais songe-t-on à tous ceux qui souffrent et qui souffrent ? On ne peut pas tout guérir par la volonté, la pensée positive, etc. Je l'ai cru aussi, arrêtant mon traitement, puis souffrant 2-3 fois plus à cause des conséquences. Ce n'est pas la réalité. Le corps peut en effet générer de nouvelles cellules osseuses pour guérir d'une fracture, par exemple. Donc oui, dans de très nombreux cas, le corps est programmé pour guérir, pour renouveler les cellules détruites. Mais une personne amputée d'une main ne se créera jamais une nouvelle main, aussi fort puisse-t-elle le vouloir, le souhaiter, prier pour que cela arrive. La guérison viendra ailleurs, dans l'esprit, par l'acceptation. Avoir le courage de changer les choses que l'on peut changer, la sérénité d'accepter celles qu'on ne peut pas changer et la sagesse de connaître la différence, disait à peu de choses près Marc Aurèle. Nous sommes entourés de personnes qui consacrent leur vie entière à un domaine et acquièrent une quantité incroyable de connaissances, notamment dans le domaine de la médecine. Parce que nous croyons pouvoir nous passer de médecins, de médicaments, en écoutant et en choisissant de suivre d'autres personnes qui croient, nous nous passons de l'aide de ceux qui savent. J'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel, la spiritualité. J'ai écouté toutes sortes de méditations, regardé un nombre incalculable de vidéos. Ensuite, j'ai établi des liens entre les différents « enseignements », entre guillemets. Je suppose qu'inconsciemment, j'ai compris des concepts clés à force. Si tu veux, nous pourrons en parler un jour de vive voix.